Une épidémie de manque de sommeil, c'est ce que les humains sont en train de développer aujourd'hui en passant trop peu de temps à dormir. Et dans tous les pays occidentaux, le constat est le même avec cette dette de sommeil qui est devenue un véritable problème de santé publique. Le dernier Nobel en médecine a récompensé les travaux sur les rythmes circadiens qui sont au cœur de notre horloge biologique. Et lorsque nous ne dormons pas assez, eh bien c'est cette horloge qui se dérègle et qui entraîne derrière elle son cortège de dysfonctionnements physiologiques. Le dossier d'émission est donc consacré au sommeil pour comprendre pourquoi il est essentiel de prendre soin de ses nuits. Et j'attends vos messages dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Et bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, le retour des météorites dans le scénario sur l'apparition de la vie sur Terre.
Et oui, puisqu'on la cherche beaucoup au fond des océans, mais la vie aurait aussi pu naître à l'air libre dans de petites mares bombardées de météorites. On en discute avec le professeur d'astrochimie Hervé Cottin.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Quand le sommeil nous éveille, c'est donc un livre qui paraît aux éditions Solar et dont vous êtes l'auteur, docteur Marc Ray. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. C'est le thème de notre dossier donc cet après-midi. Le sommeil, c'est quoi? Un véritable médicament? Le meilleur de tous, peut-être?
Ah, c'est un moment très important, en effet, pour se reconstruire et en particulier reconstruire son cerveau.
Oui.
Et donc, c'est vraiment quelque chose de capital et on a un peu perdu cette notion de vue.
Donc aujourd'hui, là, 14h06, c'est le moment de dormir un petit peu, de roupiller sous son bureau, par exemple, si on peut.
Alors,
le faire.
Alors, c'est le moment de faire une pause,
ouais.
De façon
courte,
10 minutes,
oh là,
de façon à restaurer ces systèmes de vigilance pour qu'ils puissent fonctionner pour l'après-midi.
Et on peut récupérer sa dette de sommeil comme ça, en faisant une petite
sieste? Alors, ce n'est pas une récupération de la dette, c'est une gestion de la dette, ce qui est un peu différent.
Très bien, et bon, on va continuer à en parler avec vous dans un instant, avec, j'imagine, les messages nombreux des auditeurs qui vont nous rejoindre sur le site de l'émission. La vie est-elle apparue sur Terre dans un grand splash? Eh bien, d'une météorite, en tout cas frappant un bassin d'eau chaude et salée, et c'était il y a 4 milliards d'années.
L'espace interstellaire, infini, éternel, traversé d'éruptions cosmiques et d'incessantes turbulences. Champ d'action illimité pour ces bolides flamboyants. Des milliers de fragments, certains pas plus gros que le poing, d'autres de la taille d'une cité.
Extrait du film Météore en 1979, une drôle de question aujourd'hui à la une de la science avec cette étude menée par le Max Planck Institute allemand qui suggère que les conditions à la surface de la Terre il y a 4 milliards d'années étaient propices à une chimie prébiotique et que la matière organique apportée par les météorites aurait pu tout déclencher. Axel, on en discute avec notre invité.
Bonjour Hervé Cottin.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'astrochimie à l'Université Paris-Est Créteil et membre du LISA, c'est le Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques. Alors pourquoi cette hypothèse d'une vie qui serait née à la surface, à l'air libre, a peu à peu disparu depuis quelques années?
Alors, elle a un peu disparu parce que au début, dans les années 50, on imaginait que l'atmosphère de la Terre permettait un nombre considérable de synthèses chimiques. Et progressivement, cette idée a été un petit peu est passée un petit peu en arrière-plan parce qu'on s'est rendu compte que la composition de l'atmosphère de la Terre avant l'apparition de la vie était sans doute peu propice à des synthèses chimiques. Et alors, on s'est tourné vers le fond des océans et là, des études ont montré qu'il pouvait y avoir au niveau de petits volcans, des sources hydrothermales au fond des océans, des réactions chimiques qui pouvaient être intéressantes. Ensuite, ça s'est mêlé avec des hypothèses concernant les plus anciennes traces de vie sur Terre qui, on suppose, ont pu être adaptées à des très hautes températures. Et tout ça mêlé a mené à cette idée que la vie serait peut-être éventuellement apparue au fond des océans avec une source d'énergie qui serait plutôt de l'énergie thermique ou de l'énergie oxydoréductrice au niveau de ces sources hydrothermales.
Et là, avec cette étude, on remonte à la surface. Alors, quelle est la nouveauté vraiment de ces simulations qui ont été menées par ces scientifiques allemands?
Alors, la nouveauté, c'est que ces chercheurs, en fait, ont essayé de mettre bout à bout différentes choses. Ils ont mis bout à bout déjà l'idée que on observe, alors cette fois-ci, c'est plus de l'hypothèse, c'est qu'on observe que dans certains types de météorites, dans des petites particules microscopiques, qu'on va appeler tout simplement des micrométéorites, ou bien dans des comètes, on observe qu'il y a de la matière organique, des molécules basées sur du carbone, et en essayant de faire un bilan du flux qui a pu tomber sur la Terre primitive et en associant ce bilan au fait que dans de l'eau à l'état liquide qui pouvait y avoir à la surface de la Terre et des réactions chimiques qui ont pu être simulées en laboratoire, ils ont mis ça bout à bout et ils se sont rendus compte qu'on pouvait, sous certaines circonstances, avoir une certaine quantité de matière qui vient des apports extraterrestres, des molécules, hein, pas de la vie, venant d'apports extraterrestres et qui, dans des petites mares chaudes, qui s'évaporent, qui vont se reformer, vont induire un cycle qui peut permettre des synthèses qui vont mener à des petites briques qui peuvent ensuite s'associer pour former des molécules comme l'ARN.
Donc ce sont ces molécules au contact de l'eau chaude en surface qui auraient permis à cette chimie de donner naissance à la vie, c'est ça à peu près ?
C'est ça, on pense que l'eau est un solvant vraiment particulier dans lequel on peut faire une multitude de réactions. Et cette multitude de réactions va donner naissance aux molécules qui sont à l'heure actuelle indispensables au fonctionnement du vivant. Et parmi ces molécules, bien sûr, il y a l'ARN qui est présente dans toutes les cellules de tous les organismes vivants.
Alors, il y a une bonne taille pour cette météorite ? Il faut qu'elle soit pas trop grosse, pas trop petite ? Est-ce qu'il y a des critères de sélection ?
Alors oui, c'est un des aspects intéressants de cet article, parce que, en fait, quand on regarde un petit peu au niveau des flux, de la quantité de matière, on se rend compte que il y a beaucoup plus de micrométéorites qui tombent sur Terre. Alors à l'heure actuelle, on estime qu'il y a environ 10 000 à 20 000 tonnes de micrométéorites qui tombent encore à l'heure actuelle sur notre planète. Et puis de temps en temps, de manière plus épisodique, des plus gros objets qu'on va appeler météorites. Et en fait, ce qui montre, c'est que les petites micrométéorites, certes, apportent plus de matière, mais de manière beaucoup plus diffuse. Et en gros, ça va être détruit au fur et à mesure que ça arrive. Alors que si ça arrive sous la forme d'objets un peu plus conséquents, des météorites, eh ben, cette fois-ci, on va avoir une plus grosse quantité qui va pouvoir se dissoudre dans ces petites mares chaudes et initier une chimie avec une certaine concentration de composés, alors que ça serait pas suffisant, probablement, si on se contentait de ce petit vernis de micrométéorites qui tombent de manière continue à la surface de notre planète.
Alors pour vous, quelle est l'hypothèse la plus convaincante ? Alors c'est le fond des océans ou ces petites mares et ces météorites ?
Alors, mon sentiment, et c'est le sentiment d'autres chimistes, c'est que l'apport d'énergie sous forme de rayonnement ultraviolet, donc de la lumière du soleil, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les chimistes, et on pense que c'est quand même une manière d'apporter de l'énergie qui va être beaucoup plus efficace pour faire les synthèses qui nous intéressent. Alors, c'est jamais binaire, hein, on peut jamais dire mettre une hypothèse complètement de côté. Il y a des cycles, il y a peut-être aussi des effets de mode dans l'avancée de notre pensée. Mais actuellement, moi, j'ai le sentiment qu'on revient vers cette idée d'apparition de la vie. Alors toujours dans le liquide, plutôt en surface, avec une notion de cycle. Si là, ce qui est important dans cet article, c'est qu'on a besoin de, on n'a pas Il ne suffit pas de baigner continuellement dans de l'eau. Il faut que de temps en temps, cette mare s'assèche. Le passage en phase solide, condensée, sèche, ça nous aidait à faire quelques réactions et puis repartir dans de l'eau liquide. En fait, la chimie qui a conduit à l'apparition de la vie, on peut sans doute pas la dissocier de l'environnement de la planète sur laquelle ça se produit. Et là, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas encore sûr de nous, on ne sait pas encore qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour expliquer l'apparition de la vie, mais sans doute que l'environnement terrestre a joué un rôle prépondérant.
Et l'autre hypothèse encore plus vieille, que les météorites auraient apporté directement la vie, celle-là, elle est complètement oubliée ?
Alors, Oui, c'est ce qu'on appelle la panse permis. Il faut bien la dissocier de l'apport de molécules organiques. Là, c'est vraiment une idée que la vie serait somme toute banale dans l'univers et qu'elle serait véhiculée via des météorites, via des comètes. Et si on tombe sur une planète propice à sa prolifération, le tour est joué. Alors là, ça peut faire rêver, mais on est face à des contradiction, c'est que quand on analyse le contenu de météorites, on a justement accès à cette matière et toutes les études sérieuses qui ont été faites dans des environnements stérilisés avec des échantillons qui ont été recueillis proprement, stockés proprement, montrent que effectivement dans certaines météorites, il y a de la matière organique. Mais par contre, on n'a jamais vu la trace de bactéries dans ces objets. Donc si un jour on trouve des météorites et qu'on arrive à se convaincre qu'il y a des bactéries dedans, ben on sera bien obligé de se plier à la réalité des faits. Mais la réalité actuelle, c'est qu'il y a bien de la matière organique, mais pas d'organisme. Mmh. Les termes peuvent être parfois un petit peu subtils dans le jargon scientifique et faut pas confondre.
Et ce processus, il aurait duré combien de temps, Hervé Cottin ?
Alors la durée, c'est une vraie question parce que le temps de la chimie, c'est pas un temps géologique, c'est-à-dire que imaginez des réactions chimiques qui vont prendre des millions d'années, des centaines de millions d'années dans un environnement qui va être sans cesse en transformation, c'est compliqué. Donc on ne sait pas vraiment combien de temps il a fallu à la vie pour apparaître sur la Terre. La question, je pense, qu'il faut se poser, c'est combien de temps il a fallu à la Terre pour présenter les conditions qui vont être favorables à l'apparition de la vie, et aussi que cette vie puisse, que cet environnement soit suffisamment stable pour que cette vie puisse ensuite se développer et résister aux changements de l'environnement qui sont inéluctables sur notre planète.
Merci beaucoup Hervé Cottin pour cet éclairage, et à très bientôt. Dans la tête au carré. À très bientôt.
Merci
Axel,
beaucoup.
À demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, les centrales nucléaires françaises qui sont très mal protégées face aux risques terroristes. Voici la conclusion d'un rapport remis par Greenpeace hier à 7 hauts fonctionnaires en charge des questions de défense. L'ONG a proposé à 7 experts indépendants de plancher sur l'idée que les centrales pourraient être une cible d'actes malveillants. Il ressort de leur expertise que les réacteurs en eux-mêmes ne sont pas exposés, mais que par contre les piscines, elles, le sont. Les piscines servent à entreposer des combustibles usagés pendant plusieurs années après leur cible d'activité, et une attaque visant à vider les piscines pourrait entraîner une surchauffe de ces combustibles encore très actifs. De son côté, EDF assure que les centrales sont sûres et prévoit d'investir encore 720 millions d'euros jusqu'en 2023 pour maintenir cette sécurité. Le nombre de bébés nés prématurés ou avec un faible poids de naissance sont en augmentation par rapport à 2010. Les premiers résultats de l'enquête mère et nouveau-né de l'INSERM paru ce matin donnent un aperçu en demi-teinte de la périnatalité en France. Les facteurs de risque sont en augmentation, comme l'âge maternel élevé, le surpoids ou l'obésité, avec également la consommation de tabac pendant la grossesse qui stagne à 17% des femmes enceintes. Le taux de césarienne est stable également et concerne 20% des naissances, tandis que le taux d'épisiotomie et l'utilisation d'ocytocine diminuent légèrement. La prise en charge de la douleur semble bonne, puisque 88% des femmes se disent satisfaites de ce qui leur est proposé pour gérer la douleur et les contractions. Le rapport complet est à lire sur le site de l'INSERM. Et puis si vous connaissez le durian, ce gros fruit exotique à large épine, eh bien vous connaissez sûrement son odeur caractéristique et même incommodante pour certains. Eh bien une équipe de l'université de Singapour vient de réaliser le premier séquençage du génome du durian et décrit aujourd'hui les gènes associés à cette odeur soufrée entre l'oignon en décomposition et l'œuf moisi. Les chercheurs expliquent que plus le fruit est mûr, plus il sent mauvais, car les gènes du caractère mûr et ceux de la synthèse de composés soufrés sont associés dans leur expression. Ils expliquent également que cette odeur est stratégique pour l'espèce, car elle est émise pour avertir les animaux qui se nourrissent du durian qu'il est prêt à être mangé, et ses graines sont prêtes également pour coloniser de nouveaux territoires. Allez, le sommeil dans un instant, c'est le dossier de l'émission.
À l'arrière des berlines, en devine, des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux, livrés à eux. Ils vont des petits. des ennuis. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce néant à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez les souliers, usez les huriers, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Mais rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Joséphine, osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Alain Bachung à l'instant.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Docteur Marqueret, vous êtes l'invité cet après-midi de l'émission pour nous convaincre de dormir plus. Hein. Ça va être le message tout au long de notre discussion, j'imagine.
Hein. Ah, tout à fait, c'est quelque chose de très important.
Ouais, vous publiez donc ce livre, hein, « Quand le sommeil nous éveille, dormir pour construire notre cerveau ». Donc c'est pas rien effectivement de dormir. C'est aux éditions Solar qu'est publié ce livre. Et vous êtes neurologue à l'hôpital de la Timone à Marseille et responsable du centre du sommeil qui se trouve au sein de l'hôpital.
Qui se trouve au sein de l'hôpital.
Ouais. Il y en a combien en France aujourd'hui?
Ça varie. Disons qu'il y a une quarantaine de centres de sommeil. Mais les niveaux d'équipement sont très variables selon les centres. Donc ouais. Après, il y a des tout petits centres dans lesquels il y a des enregistrements, mais qui ne sont pas surveillés. Donc c'est un peu compliqué d'avoir une idée exacte du nombre de... Il y a une multiplication des possibilités d'enregistrement aujourd'hui, heureusement, compte tenu du nombre de gens qui se plaignent de troubles du sommeil.
Qu'est-ce qu'on y fait dans ces centres alors exactement? Qu'est-ce que vous traitez en particulier?
Alors, ces centres, c'est des outils diagnostiques. Et donc, on va essayer de comprendre la problématique du patient. Alors, soit on va chercher un syndrome d'apnée du sommeil, soit on va chercher des parasomnies ou un syndrome des jambes sans repos, donc un certain nombre de pathologies pendant le sommeil. Mais par contre, pour tout ce qui est des insomnies, on réglera ce problème habituellement en consultation et avec des agendas de sommeil.
Alors, les questions des auditeurs arrivent déjà très nombreuses. Hein. Ça ne va pas vous surprendre parce qu'évidemment, tout le monde s'intéresse à la question du sommeil. Franceinter.fr, le mot-clé l'attaque également sur les réseaux. C'est quand même étonnant cette histoire, parce que évidemment dormir c'est une chose très facile, la plus simple du monde probablement, et pourtant aujourd'hui on est obligé de faire des messages de prévention, parce qu'on est face à un vrai problème de santé publique quand même. Hein.
Tout à fait, parce que la société a de plus en plus considéré que le sommeil était une perte de temps, et nous offre des stimulations continues. Ouais. Donc pour décider de s'arrêter, il faut décider en effet de couper la lumière, de couper le portable, de couper la tablette, de ne pas regarder le film. Et donc cette mise en retrait pour pouvoir dormir, elle a été très peu valorisée, et donc les gens sont en privation chronique de sommeil.
Alors pour les gens qui dorment beaucoup, parce qu'il y en a, heureusement, c'est amusant, parce que ce qui ressort dans les messages, c'est une sorte de sentiment de culpabilité. Il y a Marie qui nous dit, voilà, j'ai l'impression d'avoir moins de temps dans la vie car j'ai besoin de dormir beaucoup, entre 7 et 8 heures par nuit, ce qui n'est pas énorme en soi, rapport à des amis qui ne dorment que 6 heures.
Voilà. Et donc c'est en effet un certain nombre de sujets qui ont un taux de sommeil qui est là, pour Marie, qui est tout à fait normal, qui n'est pas même pas une longue dormeuse, puisqu'on parle de long dormeur à 9h,
c'est ça.
Et là, en dessous, eh bien, malgré ce, elle va se mettre en privation chronique de sommeil, puisqu'elle, elle a besoin de 7-8 heures de sommeil, et c'est un besoin qu'elle ne pourra pas réduire.
Ouais. Et puis ça va très très vite, parce que gratter une heure de sommeil par nuit, au bout de la semaine, on arrive quasiment à une nuit entière.
À une nuit blanche, tout à fait. Oui.
Et ça, c'est catastrophique pour l'état physiologique de la personne.
C'est sûr que ça va avoir des répercussions très négatives, à la fois sur l'humeur, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus triste, on va avoir l'impression d'avoir envie de faire rien d'autre que dormir, tellement on a sommeil, et puis on va tendance à prendre du poids, ce qui est également très négatif.
Pourquoi on parle autant de sommeil en cette rentrée ou en cet automne? Parce que bon, là, il y a le hasard aussi des prix Nobel, attribués donc pour la médecine au rythme circadien. Il y a également, malheureusement, la disparition d'un grand chercheur dans le domaine du sommeil, Michel Jouvert, on va en parler dans un instant. Et puis, le nombre de publications d'ouvrages consacrés au sommeil, là, c'est vraiment, il y a une concentration, une cristallisation autour de la rentrée. Pourquoi?
Alors, il y a deux raisons à ça. D'abord, il y a une dette chronique de sommeil au niveau de la société. Et à la rentrée, bien entendu, alors qu'on a pu dormir un peu plus pendant le mois d'août en congé, on reconstitue cette dette. On est à nouveau mal et donc on ne comprend pas ce qui se passe alors qu'on était très bien en vacances. Et là, on se met à aller beaucoup plus mal parce qu'on réduit son temps de sommeil.
Ah oui, donc ça, c'est l'effet pernicieux, en fait. Ah d'où, oui. D'où le message également d'essayer de dormir toujours de la même manière, que ce soit la semaine ou le week-end, et que ce soit pendant qu'on travaille ou pendant les vacances.
Voilà, alors ça c'est assez difficile, selon les temps de transport entre le lieu de travail et votre domicile, mais c'est sûr qu'il faut faire attention à ça, et les gens ont tendance à dériver, et vous voyez Marie qui nous dit que ses amis dorment moins de 7 heures, c'est déjà une privation de sommeil.
Ouais.
C'est déjà une privation de sommeil pour la plupart d'entre eux.
C'est ça, parce qu'il y a quand même des individus qui ont, on va dire, peut-être la chance de dormir beaucoup moins ou qui ont moins besoin de sommeil. Physiologiquement, comment on l'explique ça d'ailleurs?
Il y a des courts dormeurs, mais c'est déterminé de façon génétique, très habituellement. Vous avez des familles de courts dormeurs et des familles de longs dormeurs. Mais c'est comme la couleur des yeux, on va pouvoir la changer. Et donc, c'est sûr que les courts dormeurs sont un peu avantagé en termes d'activité, mais les longs dormeurs ont un temps pour réfléchir et reconstituer ce qu'ils ont fait la journée, pendant la nuit, pendant le sommeil. Bon. Donc, ils sont également avantagés de ce côté-là.
C'est pas négligeable non plus.
C'est pas négligeable.
Il y a un aspect héréditaire au fait d'avoir besoin de peu de sommeil.
Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr que c'est d'ailleurs l'objet des prix Nobel qui ont montré qu'il y avait des gènes qui réglaient notre horloge biologique.
Alors, Lisa nous dit, je suis une très grosse dormeuse, je ne me sens jamais rassasiée de sommeil, mais je m'inquiète parce que j'ai l'impression de ne jamais récupérer, je suis toujours très fatiguée au réveil, je rêve systématiquement, je me souviens très bien d'ailleurs de mes rêves pendant plusieurs jours. Est-ce que le fait de beaucoup rêver empêche d'avoir un sommeil dit réparateur? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux?
Non, globalement non. Le sommeil des rêves, les rêves surviennent surtout dans une phase particulière du sommeil qui est le sommeil paradoxal, ils surviennent beaucoup moins en sommeil lent, donc quelqu'un qui va dormir beaucoup va augmenter, en particulier s'il dort beaucoup le matin, il va augmenter son temps de sommeil paradoxal et donc va augmenter la production de ses rêves, ça c'est sûr. Mais je veux dire que si vraiment vous avez l'impression d'être toujours somnolent, même en vacances, même en ayant dormi tout ce que vous pouvez, à ce moment-là il faut bien entendu s'inquiéter pour savoir s'il y a une pathologie qui vous rend hypersomniaque.
Ouais.
Mais c'est plus de 10 heures par 24 heures.
Ouais. Alors on va écouter la voix d'un des pionniers, j'ai cité son nom tout à l'heure, c'est Michel Jouvet qui nous a quitté là il y a quelques jours à peine, qui a fait un travail vraiment très important. Il a été un des pionniers en la matière et il a surtout été un grand découvreur, découvreur du sommeil paradoxal. Et on va l'écouter, c'était en 2004 sur France Inter, au micro de Patricia Martin.
Les Américains ont vu que lorsqu'on s'endort, le tracé ressemble à l'éveil. Et à leur grande surprise, ils ont vu réapparaître des phases qui devraient être de l'éveil. Le sujet dormait, bougeait les yeux. On s'est aperçu ensuite qu'il y avait une érection à ce moment-là, du nourrisson au centenaire. Et en réveillant les gens à ce moment-là, ils racontent avec beaucoup de détails et en couleurs des souvenirs de rêve. Par contre, c'est en travaillant chez des animaux, des rats, des souris à qui on avait mis des électrodes, qu'on s'est aperçu qu'il y avait d'autres signes qui permettaient de penser que c'était en fait un sommeil profond. Le tonus musculaire était totalement aboli. Et comme ça ressemblait à l'éveil, on lui a donné le nom de sommeil paradoxal.
Voilà, docteur Marcret, impossible de parler de la science du sommeil sans évoquer Michel Jouvet, évidemment.
Ah oui, non, ça c'est sûr que ça a été un très grand pionnier, ouais. Puisque parce que la découverte du sommeil paradoxal s'étale de 1953 à 1959, et il faut avoir vraiment la poigne de Jouvet pour arriver à convaincre que cet aspect dans lequel vous avez une activité électrique cérébrale qui est très voisine de la veille, c'est encore du sommeil, et c'est une forme particulière de sommeil qu'il propose d'appeler le sommeil paradoxal, alors que les anglo-saxons l'appellent rapid eye movement, parce qu'il y a les mouvements des yeux rapides qu'ils ont découvert eux. Jouvet avait découvert l'hypotonie, c'est-à-dire que vous êtes paralysé à ce moment-là, et donc c'est pour ça qu'il proposait de ne pas décrire tous les signes, mais de dire que ce sommeil avait ce côté paradoxal d'avoir un cerveau éveillé chez un individu complètement endormi. Ouais.
Alors vous évoquez évidemment Michel Jouvet hein, dans votre ouvrage. Quels sont les outils qui lui ont permis justement d'arriver sur la découverte du sommeil paradoxal?
Ah, justement, c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il a enregistré chez l'animal, et donc avec en effet pas mal de capteurs, et puis l'observation, la découverte de l'hypotonie, puis après il l'a enregistré chez l'homme, il a montré que chez l'homme aussi on était paralysé, mais ça veut dire qu'il... Le problème de l'étude du sommeil, c'est que vous devez travailler beaucoup la nuit, puisque alors c'est vrai que chez certains animaux comme le rat, on peut travailler la journée, etc. Mais
chez l'humain, c'est plus compliqué.
Chez l'humain, c'est plus compliqué. Il faut travailler la nuit.
Kadra nous dit, avec mes enfants en bas âge, j'ai énormément souffert du manque de sommeil entre les cauchemars, les fièvres, les lever à 5h du matin pour tenir une journée au travail et après le travail. C'est un rythme intenable et pourtant, dit-elle, il faut tenir. Je suis devenue irritable avec des grosses colères, des crises de larmes, un appétit croissant. Somnolence dans les transports en commun, on subit sans arriver réellement à changer les choses. Ça, c'est vraiment un portrait qu'elle dépeint, que vous connaissez bien.
Ah, tout à fait. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, c'est pour ça que actuellement, on essaye d'expliquer aux mères que le sommeil de l'enfant, c'est pas comme le sommeil de l'adulte en plus petit, qu'il va y avoir de nombreux éveils. Et donc, il va falloir qu'elles apprennent à gérer leur sommeil. Et il faut souvent l'apprendre au couple parce que, en effet, là, vous avez ce récit qui montre que la mère peut s'épuiser dans la privation de sommeil. Et donc, elle est beaucoup plus désagréable avec son compagnon qui ne comprend pas pourquoi elle l'aime plus depuis qu'elle est petite.
Oui. Donc il faut se partager aussi les corvées quand même.
Je crois qu'il faut surtout faire attention.
Et lutter contre ce sommeil fractionné.
Voilà, il faut surtout qu'elle puisse récupérer cette dette de sommeil.
Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages pour vous également, Marqueret, sur le site de l'émission. Quand le sommeil nous éveille, c'est aux éditions Solar. Vous êtes l'invité de La Tête au Carré. Apocalypse. Cigarettes After Sex avec Apocalypse.
La tête au carré sur France Inter.
Quand même, malgré ses défauts, faut avouer que l'humain est une machine incroyable qui n'a même pas besoin de se recharger d'ailleurs, puisqu'elle se régénère toute seule. La machine humaine. Ben oui, le sommeil,
bien sûr.
Le sommeil, quelle richesse. Tu te couches horizontalement, ça libère les tensions. Tu fermes les yeux, ça crée l'obscurité. T'imagines ? Le pouvoir t'éteint, comme ça, clac. Vous me faites chier, j'ai sommeil, j'éteins, paf. C'est pas mal. Et donc, alors, tu te couches, tu fermes les yeux, et tu te réveilles quelques heures plus tard, mieux. La chance !
Voilà, ce qui est bien avec Florence Foresti, c'est qu'on a quasiment à chaque fois un sketch pour illustrer nos dossiers d'émission. Donc là, c'était en 2015, un extrait évidemment sur le sommeil. Et Marc Rey, ben, vous êtes notre invité pour parler de la même chose, dormir pour construire son cerveau, hein, c'est le sous-titre de votre ouvrage. Alors, il y a beaucoup de messages d'auditeurs, il y a Karine qui nous dit, est-ce qu'il existe un délai à partir duquel on ne peut plus récupérer d'une dette de sommeil? Par exemple, est-ce qu'on peut rattraper l'été la dette de sommeil de l'année, le week-end la dette de la semaine, et ce, combien de temps après?
Alors, ça,
parce qu'on a souvent dit au micro qu'on ne pouvait pas rattraper la dette de sommeil.
C'est-à-dire que la dette de sommeil va se rattraper de deux façons différentes. Il y a d'une part une récupération quantitative, vous avez moins dormi, vous dormez plus. Et d'autre part une récupération qualitative, c'est-à-dire que vous dormez plus profondément quand vous êtes en récupération. Mais bien entendu, vous n'allez jamais récupérer la totalité de la dette. On a eu Randy Gardner qui a fait le plus long stage sans sommeil, mais là c'était... hors contrôle médical, etc.
Combien de temps ?
11 jours, 11 nuits, sans dormir.
C'est possible sans mourir, ça ?
Non, mais par contre, il y a de fortes chances de devenir paranoïaque. Donc,
avec
il vaut mieux éviter ce genre de truc. Ben, des séquelles, si vous voulez, la paranoïa peut durer un petit moment.
Ouais,
donc,
ouais.
Ce qui est toujours un peu gênant. Donc, bon, c'était... Et à cette époque, mais quand il s'est endormi, normalement, 11 jours, 11 nuits, ça vous fait 80 heures à récupérer, si vous voulez, 8 heures par nuit. Et en fait, il a récupéré en 48 heures. Donc, il n'a pas récupéré les 80 qu'il avait manqué, il en a récupéré beaucoup moins. Parce qu'il y a cette récupération à la fois quantitative et qualitative.
Ouais.
D'accord ? Et donc, bien entendu, si vous vous mettez en privation de sommeil pendant longtemps, bien, vous allez être pas bien et vous n'allez pas pouvoir récupérer pendant un mois. Alors, ce qui est un peu différent d'une gestion du sommeil quand vous devez... affronter une période un peu difficile au point de vue de l'organisation de notre sommeil.
Alors, encore une question d'une maman, j'imagine, Martine. Est-ce que vous avez des questions pour des techniques pour récupérer rapidement lorsque les nuits sont troublées par le réveil d'un bébé depuis 6 mois?
Voilà.
Pour compléter ce qu'on se disait tout
à
l'heure.
Alors, en effet, comme vous allez avoir une dette de sommeil et qu'on ne peut pas complètement la récupérer, il va falloir faire en sorte de récupérer en journée et donc d'avoir des sommeils flash.
Ouais.
Alors, c'est ce travail que font les navigateurs solitaires.
Oui.
Quand vous faites le Vendée Globe et que vous en avez pour 4 mois en mer et que vous dormez à peu près 4 heures par nuit en vous réveillant toutes les heures.
Oui.
Et l'univers est globalement hostile, en particulier dans les mers du Sud avec les icebergs, les tempêtes, etc. Donc comment font-ils ? Eh bien, ils vont apprendre à gérer leur sommeil. Ils vont faire des sommeils flash qui vont durer 10-15 minutes. Donc ils vont apprendre à faire ces lâcher-prises pour pouvoir tenir. Et on sait qu'il y a des périodes dans lesquelles on va... Mais bien entendu, il faut faire très attention, il faut apprendre à le gérer.
Ouais. Et donc dans la journée, quand on est vraiment épuisé, vous préconisez ces micro-siestes au fond.
Ah, tout à fait, ça va vous permettre d'être à nouveau en forme. Donc par exemple, si vous conduisez, la plupart des gens s'arrêtent et vont prendre un café et puis reprennent le volant. Ils sont immédiatement somnolents, alors qu'il faut s'arrêter. Et puis au contraire, dormir pendant 10 minutes. Dormir, c'est pas en fait faire du sommeil, c'est mettre nos systèmes d'éveil au repos. Ce qui est totalement différent. Je ne vais pas faire du sommeil comme je ferais le plein d'essence en disant « je vais faire une heure de sommeil, j'ai rempli mon réservoir pour une heure ». Mais vous allez pouvoir à nouveau avoir vos systèmes d'éveil qui fonctionnent correctement parce que vous avez mis au repos pendant 10-15 minutes.
Et ça fonctionne bien, hein, ça redonne bien. De l'énergie aussi de dormir 10 minutes
tout à fait.
À l'heure de la tête au carré par exemple, malheureusement, c'est l'heure de la sieste.
Ouais, mais ça permet justement de redémarrer de façon correcte. Alors que si vous dormez vraiment, un certain nombre de gens vont dire « mais si jamais je fais une sieste, je suis plus fatigué après la sieste qu'avant » parce que là ils ont démarré du sommeil,
elle est trop longue.
Et à ce moment-là, si vous voulez, ils sont complètement dans le sommeil, dans l'inertie du sommeil, ils n'arrivent pas à l'arrêter et donc ils sentent moins bien.
Ouais. Par contre, vous dites on peut dormir, effectivement faire une longue sieste si on doit se coucher tard. Ça, c'est une bonne idée, par exemple.
À ce moment-là, oui. Pour vous allez avoir du sommeil de récupération, si vous voulez, donc vous allez dormir de façon plus importante.
Ouais. Roger nous dit « L'anxiété m'empêche de dormir sans environnement sonore, voire lumineux. Comment résoudre ce problème sans l'aide de traitements médicamenteux ?»
Alors, en effet, ça, c'est quelque chose de très important, puisqu'un des facteurs très importants dans l'insomnie, c'est l'anxiété, c'est le stress. Et donc, il va falloir apprendre à gérer son stress. Et c'est comme ça que se sont développées la sophrologie, la méditation, la relaxation, le yoga. Et donc, ces techniques vont vous permettre de mettre à l'écart les pensées qui vous stressent et donc d'arriver à les laisser filer au lieu de se focaliser dessus et de les ruminer. Mmh. Un des problèmes qui va tuer le sommeil, c'est la rumination
voilà,
de sommeil.
Le petit oui. vélo dans la tête.
Voilà. Et donc, il va falloir arriver à lâcher prise. Donc, il faut penser à autre chose.
Oui. Alors, les rythmes circadiens marqueraient prix Nobel de médecine quand même. C'est l'occasion d'y revenir hein, parce qu'on a beaucoup parlé de ces horloges biologiques. Ces horloges biologiques parce que nous avons quasiment des horloges sur chacun de nos organes.
Ah, on a pas mal l'horloge biologique et c'est quelque chose qui était totalement méconnu avant 62, quand Michel Siffre est descendu dans un gouffre et il s'est mis en isolement temporel et il s'est rendu compte qu'il restait sur un rythme proche de 24 heures. Mmh. Et puis donc le prix Nobel a été attribué à des chercheurs américains qui travaillaient sur des gènes d'horloge, c'est-à-dire des gènes qui sont capables de nous donner l'heure. Parce que quand même, et ils travaillaient chez drosophiles.
Chez les mouches.
Oui, ouais. Chez les mouches. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est quand même vachement facile. D'avoir plusieurs générations, en l'espace de quelques jours, vous avez plusieurs générations possibles de mouches. Donc si vous bricolez sa génétique, vous avez tout de suite les effets. Vous comprenez bien que nous, si on bricole la génétique, c'est quand même 9 mois après qu'on voit ce qui se passe.
C'est
donc
vrai.
C'est quand même beaucoup plus
c'est
long.
Patient.
Et donc, et là, ils ont été capables de montrer que notre génétique, enfin la génétique des animaux, et bien entendu de l'homme, avait des gènes qui allaient donner l'heure. On n'a pas de montre au poignet, mais par contre, on a des gènes d'horloge, et donc ces gènes vont nous permettre de nous donner le temps qui passe, et donc de faire un certain nombre de choses à certaines heures, d'où la base biologique, des ouais. rythmes biologiques, et c'est vraiment une base qui est interne.
Ouais, d'où l'idée de bien connaître sa biologie propre, sa chronobiologie, puisque c'est ça dont il s'agit, pour pouvoir bien gérer son horloge, et ben, toute sa vie aussi, puisque...
Tout à fait, alors il faut savoir que l'horloge varie au cours de la vie, donc vous la construisez dans l'enfance, jusqu'à 25 ans, oui, c'est une enfance assez longue, et après vous allez avoir une horloge à peu près stable, et à partir de 50 ans, elle va être bien entendu... un peu plus difficile à remettre à l'heure, et d'où l'importance des synchroniseurs externes, qui sont la lumière du jour, qui sont les rites sociaux, le fait de manger à heure fixe, le fait d'avoir de rencontrer des gens, etc. Et donc tout ça va vous permettre, bien entendu, de beaucoup mieux gérer votre rythme veille-sommeil.
Ouais. Là encore, la régularité, voilà, c'est un des mots clés autour du sommeil.
Ah, mais dès que vous parlez de rythme en musique, ouais. Tout le monde va vous dire que le rythme de la batterie doit être régulier. Si vous voulez que l'orchestre puisse jouer dans un orchestre de jazz, il y a incontestablement à un moment donné un tempo qui doit être donné.
C'est ça.
Et donc, si vous ne respectez pas le tempo ou si vous le changez sans arrêt, ben, vous rentrez en dissonance et ça donne quelque chose de moins joli. Ouais.
C'est vrai qu'on a découvert les rythmes circadiens sur des mimosas au tout départ, Marc Ray ?
Oui, non, c'est vrai qu'il y avait en effet un certain nombre d'observations chez des plantes qui montraient que même dans l'obscurité, il y avait un certain nombre de modifications morphologiques de la plante, comme si le soleil se levait et se couchait, alors qu'elles étaient dans l'obscurité. Mmh. Et donc ça a donné la première idée de se dire que ces rythmes avaient un fondement biologique et n'étaient pas simplement liés à l'environnement, et une réponse à l'environnement.
Céline nous dit « Mon compagnon me réveille quand je fais des cauchemars. C'est très désagréable. Pouvez-vous expliquer le bien fondé ou non de cet acte ?»
Alors, si c'est qu'elle fait des cauchemars, c'est qu'elle a une manifestation externe. Parce que, si vous voulez, quand vous faites un cauchemar, vous êtes en sommeil paradoxal, on l'a vu avec Jouvet, on est paralysé, donc on n'agit pas et on ne parle... Éventuellement, on peut parler, mais on ne va pas avoir d'agitation importante. Par contre, si elle s'agite beaucoup, etc., il s'agit peut-être d'accès de somnambulisme, et que son compagnon ne tient pas à avoir dégénéré, parce que parfois les gens vont avoir une espèce de confusion parce qu'ils sont à moitié réveillés, à moitié endormis, et donc ils peuvent avoir des actions qui ne sont pas du tout appropriées, et donc ça va entraîner un certain nombre de problèmes, donc les sujets vont essayer de les réveiller. Le problème, c'est de réveiller les gens à ce moment-là en douceur, parce que comme ils comprennent à peu près pas tout à fait ce qui se passe, si vous les réveillez de façon brutale, ils peuvent être... Elle peut être extrêmement agressive avec son compagnon, ce qui ne m'a pas
Voilà, Céline, message reçu, j'imagine. Laure, de son côté, nous dit « Comment expliquer que je ne sois pas réveillé par un orage et que je le sois par un éternuement de mes enfants lorsqu'ils étaient bébés ?»
Alors ça, c'est
justement... Ça, c'est le cerveau aussi qui sélectionne.
C'est le fait que, quand vous dormez, votre cerveau continue à traiter de l'information en permanence. Vous n'avez pas un cerveau qui est vide de toute information.
Ouais.
Et donc, l'information de l'éternuement du bébé est une information pour laquelle elle doit faire quelque chose. le bruit de l'orage n'a aucune signification pour elle, ce n'est qu'il pleut, et il n'y a pas d'intervention ou d'action à avoir. Et donc, le cerveau va lui dire, le bébé, il a éternué, donc il faut faire quelque chose, il faut vérifier que tout va bien, il y a un orage, c'est pas très important, tu peux continuer à dormir. Donc, il faut voir qu'il y a une partie du cerveau pendant toute notre nuit, mais c'est pas toujours la même, qui continue à traiter de l'information. Et si l'information est importante, eh bien, à ce moment-là, vous allez monter le niveau d'activation et vous réveiller.
Docteur Marc Rey, vous êtes notre invité, on se retrouve dans un instant.
Tu sais, tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même bu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé du rare nymphe, pris des rails en avance dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher, mais que ma mascarade a fait fuir lentement par sa froideur maussade. Alors j'ai rempli ma panse avec de vives urgences, autant vives que ivres sur la piste de danse. J'ai ajusté mes pansements pour que mes saignements soient beaucoup moins apparents sur la piste d'argent. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite et faite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Tu sais, ce soir j'ai lu dans mon corps relâché le manuel torturé de cette danse exaltée. J'ai même glissé ma langue dans des bouches saliveuses, dans de tout petits angles où l'on voit que les muqueuses. Puis là, je suis rentré bel et bien les mains nues, avec cet air déjà vu et l'envie de surplus. J'ai rien trouvé de précis, excepté d'apparence, exactement même si demain tout recommence. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. C'est la fête de trop. Moi je l'ai faite, défaite et ça jusqu'au fiasco. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos. Danse. C'est la fête de trop. Regarde, je lui de paillettes et me réduis au chaos.
Il s'appelle Eddy de Préto avec Fête de trop.
La tête au carré.
Fin de notre dossier sur le sommeil avec vous, docteur Marc Rey. Ce livre publié chez Solar. Beaucoup de questions de la part des auditeurs sur franceinter.fr. Avec Françoise, tiens, qui nous pose une question au sujet du passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Elle demande si c'est néfaste pour le sommeil. On va lui répondre dans un instant, après avoir écouté justement un extrait de ce reportage autour du changement d'heure, parce que ça va nous concerner dans 15 jours en l'occurrence.
Depuis 40 ans, la France vit au rythme heure d'été, heure d'hiver. L'idée, en 1976, était de faire des économies de pétrole.
Je serai conduit à fixer une heure de printemps, une heure d'été, pour mieux faire coïncider le jour et la journée.
La règle s'applique à toute l'Europe, même si la Grande-Bretagne a toujours gardé, été comme hiver, une heure de décalage. Il existe aussi des pays qui ont changé d'avis. La Russie avait enterré l'heure d'hiver en 2011 pour finalement la remettre au goût du jour il y a 2 ans. La Chine avait adopté l'heure d'hiver en 1986 pour l'abandonner 5 ans plus tard. Même démarche pour l'Afrique du Sud, l'Argentine et l'Algérie. Ces pays très vastes estiment le gain énergétique trop faible.
Voilà, reportage diffusé en 2016 sur France 2. Marc Rey, alors qu'est-ce que c'est agaçant ce changement d'heure 2 fois par an, non ? Ça sert vraiment à quelque chose ou pas ? À part nous dérégler finalement notre
peut-être
horloge.
Peut-être qu'au point de vue économique, consommation de pétrole, peut-être que ça sert à quelque chose, ça je n'en sais rien. Au point de vue biologique, si vous voulez, il y a une adaptation qui va être faite. Alors généralement, le passage à l'heure d'été fait qu'on va réduire d'une heure la nuit du samedi au dimanche. Or, la plupart des Français qui sont en dette de sommeil vont profiter, si vous voulez, de la nuit de samedi à dimanche pour récupérer la dette de sommeil. Et là, on leur enlève une heure et donc ils vont avoir plus de mal à récupérer ce week-end-là. Ce qui explique, à mon avis, une partie de la plainte, parce que c'est très difficile de savoir pourquoi les gens se plaignent de ce passage à l'heure d'été, alors que le passage à l'heure d'hiver, les gens se plaignent moins, parce qu'ils ont une heure de plus cette nuit-là, et donc ils semblent beaucoup mieux le supporter.
Oui.
Après, est-ce que ça a un intérêt? Vous avez vu qu'un certain nombre de pays l'a mettait, puis l'a enlevé.
C'est ça. Ça se cherche un peu quand même, non?
Voilà, pour l'instant, ça se cherche.
Bon, c'est une sorte de petit décalage horaire, finalement.
Ah, c'est un petit décalage horaire, mais qui est nettement inférieur à un décalage. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez avoir 6 heures de décalage.
Oui.
Et donc, c'est beaucoup plus facile à supporter qu'un voyage aux États-Unis.
Jules nous dit, j'avais de gros problèmes de sommeil, j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec les médecins, mais ce qui a vraiment fait évoluer les choses positivement, c'est le changement de ma literie. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, or c'est indispensable.
Alors, c'est vrai que les marchands de lits sont très très à cheval là-dessus. Mmh. Et si vous avez des douleurs, que ce soit des douleurs au niveau des mains ou au niveau de la colonne vertébrale, il est très important d'avoir une literie adaptée. Le problème, c'est qu'il faut faire très attention avec les literies. Vous avez, on vous parle par exemple de lits à mémoire de forme qui sont très intéressants chez les gens qui ont besoin d'être enveloppés, mais chez les gens qui transpirent beaucoup la nuit, un lit à mémoire de forme, ça va vous donner l'impression de vous étouffer et vous allez transpirer encore plus. Donc, de même, un lit ferme, pour quelqu'un qui est maigre, ça va être ferme, pour quelqu'un qui est obèse, ça va être un lit mou. Donc, la literie, certes, il faut en tenir compte, mais c'est surtout sur les éléments plutôt articulaires et douloureux de la colonne vertébrale que ça va marcher.
Parlez-nous des fonctions réparatrices du sommeil, Marc. Parce que ça, c'est vraiment hyper intéressant, très convaincant aussi, parce que finalement, le sommeil, ça sert à brosser nos cellules, hein, un petit peu.
Alors, il y a deux choses qui sont très, très importantes. Premièrement, ça va nous servir à retraiter les informations que nous avons eues dans la journée.
Ah oui, ça, c'est sur la mémorisation.
On va consolider ce qu'on a appris. Alors, c'est bien entendu très très important chez l'enfant et chez l'adolescent parce qu'il y a en effet une période d'apprentissage intense et on ne pourra consolider qu'à condition de dormir. Et c'est à tel point vrai que si on manque de sommeil, et ça a été maintenant montré par une équipe INSERM française de Martineau, qui ont montré que certaines régions cérébrales vont avoir plus de mal à se développer si l'adolescent est en privation chronique de sommeil. Pourquoi ? Parce que donc il y a cette espèce de consolidation, et la consolidation, ça veut dire que je réorganise mes réseaux neuronaux. C'est pas de la consolidation en l'air, c'est que vous avez quand même des cellules, des synapses qui seront plus grosses et d'autres qui vont modifier leur forme, et donc cette consolidation va se faire pendant la nuit. Deuxième point, mais ça c'est plus récent, il a été montré que le volume qui sépare les cellules est plus important en sommeil lent chez la souris, et donc pendant la nuit, vous allez avoir le liquide qui baigne vos neurones, qui va occuper un volume plus important, ce qui va permettre en effet un meilleur nettoyage, puisqu'il y a plus de liquide qui va permettre d'enlever tous les déchets du métabolisme neuronal.
Alors au niveau cellulaire, ça fait des choses incroyables. Quand on est blessé, par exemple, ou brûlé, le fait de bien dormir accélère le processus de réparation, c'est
alors, ça? Alors ça, c'est en rapport, oui tout à fait, c'est très important, et c'est en rapport avec une sécrétion d'une hormone, qui est l'hormone de croissance, qui sert à la croissance chez l'enfant et chez l'adolescent, mais qui va également servir à la réparation, et cette hormone est sécrétée exclusivement en sommeil lent profond. Et c'est donc le sommeil lent profond qui entraîne cette sécrétion. Donc si vous devez cicatriser, il vaut mieux que vous puissiez faire du sommeil lent profond.
Ouais. Donc la peau est ultra sensible au sommeil aussi. Hein.
La peau finit par être sensible au sommeil.
Ouais. Oui. Sur les infections aussi
Le fait de... si vous voulez, quand vous avez une infection, il y a un certain nombre de produits inflammatoires qui vont être sécrétés par l'organisme et qui vont augmenter votre temps de sommeil pour vous permettre de récupérer. Et par contre, si vous êtes en privation de sommeil, un certain nombre de produits du système immunitaire ne vont pas pouvoir être régénérés correctement, et donc vous allez être plus sensible aux infections.
Ouais, l'obésité, la dépression, il faut en parler aussi.
C'est dramatique.
Parce qu'en dormant mieux, on arrive quand même un peu à régler ce type de problème.
Voilà. Le fait d'être en privation de sommeil, je ne parle pas d'être insomniaque.
Ouais.
Je parle des gens qui aimeraient dormir plus longtemps et qui sont en privation de sommeil. Ils vont avoir deux conséquences majeures, outre les troubles de la mémoire et de l'attention. Ils vont avoir tendance à déprimer et ils vont prendre du poids.
Et ça va vite. Hein.
Et ça va assez vite.
La dépression, ça va très très vite. Il suffit de le voir quand on a déjà une nuit de décalage.
Ah, tout à fait.
Le moral est déjà un petit peu moins bon.
Ah oui, de toute façon, ça c'est tout à fait clair. Je veux dire que vous avez, en effet, très vite envie de rien. En plus, vous avez du mal à vous rappeler de ce qu'on vous a demandé. Vous avez du mal à faire attention. Donc, vous vous trouvez nul. Et donc, envie de rien et se sentir nul, c'est deux signes importants de la dépression.
Oui, oui. Et l'obésité, le poids?
Alors l'obésité, normalement, quand on fait une longue nuit de 8 heures, normale, tout va bien, à ce moment-là, vous ne mangez pas pendant 8 heures. Mmh. Comment se fait-ce? Parce que dans la journée, jamais vous passez 8 heures sans manger, mmh. entre le moment où vous levez le matin et le soir où vous vous couchez. Eh bien, parce que vous avez une hormone qui s'appelle la leptine, qui va être sécrétée par le tissu adipeux, qui vous coupe l'appétit, vous permet de dormir la nuit sans avoir être réveillé par une fringale subite. Et par contre, dans la journée, vous avez une hormone qui va vous stimuler l'appétit, qui s'appelle la gréline. Et donc, le problème, c'est que si vous êtes en privation de sommeil, il y a plus de gréline et moins de leptine, et donc vous allez beaucoup plus manger.
Oui, donc qui dordine, hein, c'est vrai au fond, hein. Cette histoire est exacte.
Quasiment. Oui, oui, non, mais ça, c'est une conséquence. Mais c'était, au départ, l'adage était beaucoup plus en rapport avec le fonctionnement des auberges, qui fait que si vous vouliez dormir dans une auberge, il fallait dîner.
Oui, mais quand on voit qu'on a assez de sommeil, finalement, on a moins envie de manger aussi. Donc finalement, l'histoire est quasiment vraie. Nadia nous dit, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est hôtesse de l'air depuis 20 ans? Que se passe-t-il dans l'organisme? Est-ce qu'on peut récupérer, justement, de ce sommeil totalement fractionné?
Ah, mais c'est vrai que c'est partie des contraintes de ce métier dans lequel vous avez des nombreux décalages horaires qui sont... Et donc, je crois que ce qu'il faut, c'est à ce moment-là, essayer de connaître son sommeil et puis à partir du moment où on n'est plus dans l'activité professionnelle avec ces décalages, d'envisager quelque chose d'assez régulier, progressivement, etc., de façon à essayer de resynchroniser tous ces rythmes. Mais c'est vrai que c'est des métiers dans lesquels on a un peu user l'organisme à le décaler sans arrêt et le recaler. Donc c'est vrai que ça a un coût, et c'est pour ça aussi qu'au point de vue du travail, c'est un peu différent comme organisation.
Colette nous dit, infirmière en établissement scolaire à Lyon, j'ai fait pratiquer un grand nombre d'élèves et de professeurs ce fameux quart d'heure de récupération. Je l'ai réveillé au bout de 15 minutes et ils se sentaient tous rafraîchis. C'est une bonne idée ça finalement.
C'est une excellente idée.
Il faut avoir les lieux
pour
ça aussi.
Oui, non, mais ça peut se concevoir. Je veux dire que, par exemple, chez les gens qui travaillent la nuit dans les entreprises ou du travail nocturne, il y a très souvent un lieu pour manger, mais pas un lieu pour lequel on pourrait s'arrêter pendant 10 minutes et s'allonger.
Oui, mais ça c'est très mal vu aussi dans nos sociétés.
C'est pour ça que j'espère que ça sera mieux vu, parce que c'est quand même l'objet d'une grande souffrance et d'une grande plainte aujourd'hui.
Ouais.
Et donc, il est très important de redonner au sommeil ses lettres de noblesse. Le sommeil faisait partie du panthéon des Grecs et des Romains. Donc, il y avait un dieu sommeil. Nous, le dieu sommeil, on ne lui a plus rien donné.
C'est ça. Bruno dit, l'autre jour, j'ai fait une sieste de 2 minutes. J'ai parfaitement dormi pendant ce court sommeil. On peut vraiment dormir en 2 minutes?
Non, le problème, c'est qu'il a fait un lâcher-prise complet. Et donc, de fait, il ne pensait plus à rien. Il a eu une espèce de trou. Et donc, il se sentait beaucoup mieux après. Mmh. Mais c'est simplement que ses systèmes d'éveil se sont arrêtés de fonctionner. Il n'a pas produit du sommeil au sens électroencéphalographique du terme.
Une personne sur 5 en France est en rythme décalé ou travaille la nuit, docteur Ray?
Oui.
C'est ça à peu près.
Il y a une augmentation considérable du nombre de gens qui travaillent en horaire décalé, soit la nuit, soit en se couchant tard le soir. Parce que travailler jusqu'à 22h par exemple, on pourrait dire, ça va, travailler jusqu'à 22h, c'est pas un horaire décalé. Si vous habitez à 1h de chez vous, vous ne pouvez pas vous endormir avant minuit et demi, 1h du matin. Donc vous êtes décalé.
Merci beaucoup d'être venu. Ouvrage, évidemment, à conseiller à tout le monde quand le sommeil nous éveille, avec beaucoup de réponses à tout un tas de questions qu'on se pose en permanence pour dormir et construire son cerveau. Et c'est aux éditions Solar, livre que vous signez, docteur Marc Ray. Merci beaucoup d'être venu de Marseille nous en parler.
Merci beaucoup.
À bientôt. C'est terminé pour cette tête au carré. Et merci à Clément Vuillet et Alice Berger qui étaient aujourd'hui à la technique et Thierry Dupin qui signait la programmation musicale de l'émission. N'oubliez pas bien sûr le podcast en vous abonnant sur franceinter.fr.